Radio France Internationale. Un nouveau point sur l'info en direct de Paris. Il est 1h.
Mathis Limano.
Et les titres qui font l'actualité, c'est d'abord la levée des sanctions contre la Syrie. L'Union européenne estime que le nouveau pouvoir de Damas a montré patte blanche. Plusieurs secteurs économiques clés sont donc allégés de ces sanctions. Une décision saluée par le pouvoir syrien, mais Bruxelles prévient. Elle peut revenir dessus à tout moment. La paix en Ukraine ne peut pas signifier la capitulation de Kiev. Les mots d'Emmanuel Macron depuis la Maison Blanche. Donald Trump estime lui que la guerre pourrait prendre fin d'ici quelques semaines. Ce lundi marquait les 3 ans du début de la guerre. Qui est aussi numérique. Moscou continue ses cyberattaques et sa désinformation. Aux États-Unis, 1600 employés de l'USAID sur le carreau, ils sont limogés et ce n'est que le début, prévient l'administration Trump. L'agence fournissait près de la moitié de l'aide humanitaire dans le monde.
RFI.
Le chef de la diplomatie syrienne salue la levée des sanctions européennes contre son pays. Réunis à Bruxelles, les 27 ministres des Affaires étrangères se sont entendus pour lever les sanctions qui pesaient sur plusieurs secteurs économiques clés de la Syrie. Objectif, accompagner la reconstruction du pays. Ces sanctions étaient en vigueur depuis l'éclatement de la guerre civile syrienne, Pierre Benazé.
Depuis la chute de Bachar el-Assad, l'Union européenne se voyait réclamer à cor et à cri de lever les sanctions imposées à partir de 2011. Le 27 janvier dernier, les Européens se sont mis d'accord sur le principe, mais il fallait encore affiner les textes juridiques nécessaires, car plusieurs États avaient des réserves. Ils demandaient des garanties de la part du nouveau pouvoir. Résultat, il s'agit d'une levée partielle et réversible de ces sanctions. Une levée partielle, car les Européens ont choisi 3 secteurs. D'abord, la finance, considérée comme indispensable pour lancer la reconstruction de la Syrie. Ensuite, le transport, ce qui augure de la reprise de vols directs avec l'Europe. Il doit permettre le retour au pays des Syriens qu'ils désirent. Et enfin, l'énergie, pour le kérosène aérien, évidemment, mais surtout pour la production d'électricité. Les centrales électriques syriennes ne disposent que de 6% du fioul nécessaire à leur fonctionnement. Une levée réversible, car les Européens veulent des contreparties sur une transition politique incluant femmes et minorités, sur la destruction des armes chimiques et sur la lutte contre la résurgence du terrorisme. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Les 27 ont également échangé quant à la situation en RDC et au Proche-Orient et ont adopté un 16e paquet de sanctions contre la Russie. La guerre entre l'Ukraine et la Russie qui pourrait prendre fin d'ici quelques semaines, a assuré Donald Trump. Optimisme partagé par son invité du jour, Emmanuel Macron, qui parle d'abord d'une trêve. Le président français a toutefois estimé qu'un accord de paix ne devait pas signifier une capitulation pour l'Ukraine. Et alors que ce lundi marquait les 3 ans du début de la guerre, RFI vous en parle régulièrement. La guerre qui est aussi numérique. Les campagnes de désinformation venues du Kremlin se sont multipliées ces 3 dernières années avec comme objectif de saper le soutien à l'Ukraine. Viginum, le service de vigilance et protection contre les ingérences numériques étrangères, dresse un état des lieux alarmant. Panorama de ces modes opératoires avec Sophie Malibaud.
Ces 3 dernières années, le dispositif informationnel russe s'est consolidé et s'est étendu de façon tentaculaire. Des réseaux de faux sites sont mis à jour par centaines. Des sites web usurpant l'identité de médias connus ou d'institutions internationales, des pseudo-médias en ligne sont utilisés afin de faire circuler des articles anti-ukrainiens justifiant l'invasion russe, semant le doute sur le bien fondé du soutien à l'Ukraine. Le tout est relayé par des centaines de milliers de comptes inauthentiques sur les grandes plateformes qui ne font pas grand-chose pour s'en prémunir. En fait, la dénonciation même de ces campagnes de désinformation fait les choux gras de leurs auteurs qui peuvent s'en prévaloir auprès des commanditaires qui les rémunèrent. Même si leur efficacité paraît douteuse, elles alimentent aujourd'hui tout un écosystème dépendant directement de l'État russe, de ses services de renseignement ou de structures para-étatiques. La diplomatie française a pu observer ces dernières années une certaine concomitance entre ces manœuvres informationnelles russes et les annonces témoignant d'un soutien économique ou militaire de la France à l'Ukraine. Dans le contexte actuel, Viginum, un service de l'État chargé de détecter les ingérences numériques étrangères, déplore l'intensification de la menace.
Le vote s'est terminé il y a quelques heures. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte le texte présenté par les États-Unis. Il appelle à une paix rapide en Ukraine, mais sans mentionner la souveraineté territoriale du pays. La résolution a recueilli 10 voix, dont celle de la Russie, et aucune contre. Les pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, se sont eux abstenus. Le monde ne nous attend pas. Le nouvel homme fort de l'Allemagne, Friedrich Merz, après la victoire des conservateurs au législatif, législative. Le futur chancelier se donne 2 mois pour former un gouvernement de coalition et c'est vers les sociaux-démocrates du chancelier sortant Olaf Scholz qu'il se tourne. 2 mois pour surmonter les divergences entre les deux formations, divergences budgétaires notamment. L'AfD, parti d'extrême droite, arrivé 2e, signant le meilleur score de son histoire et d'office exclu d'une coalition, a affirmé Friedrich Merz. Son état de santé reste critique malgré une légère amélioration, les termes du dernier bulletin de santé du Vatican, alors que le pape François est toujours hospitalisé pour une pneumonie dans un hôpital de Rome. Admis le 14 février, son état de santé s'est dégradé samedi. François n'est pas hors de danger, préviennent ses médecins. Elle distribuait près de la moitié de l'aide humanitaire dans le monde. Aux États-Unis, la purge se poursuit à l'agence USAID. Elle employait 10 000 personnes avant le retour de Donald Trump, des effectifs qui devraient être réduits à néant. Myriam Berber.
Concrètement, 1 600 salariés de l'agence sont licenciés et 4 200 sont mis en congé administratif. Seul le personnel désigné essentiel, dont le nombre n'est pas connu, reste en fonction. L'agence gouvernementale précise qu'elle financera les coûts du rapatriement de son personnel basé à l'étranger. L'administration Trump applique donc sa promesse de réduire les dépenses fédérales. Ces mesures font suite à un décret signé le 20 janvier dernier par Donald Trump ordonnant un gel de l'aide étrangère des États-Unis pour 90 jours, le temps d'un réexamen complet. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a lancé une offensive contre l'USAID, accusé de dérive idéologique, d'être un bastion du wokisme et de ne pas défendre les intérêts américains. L'agence dispose d'un budget de près de 43 milliards de dollars, ce qui représente 42% de l'aide humanitaire mondiale. Ce gel a provoqué une onde de choc dans le monde, de nombreux ONG dépendant des fonds américains.
L'USAID est la première victime des coupes drastiques du DOGE, le nouveau département de l'efficacité gouvernementale, dirigé par Elon Musk. La tension ne redescend pas entre Paris et Alger. 2 jours après l'attentat de Mulhouse, François Bayrou est revenu à la charge. Le Premier ministre français a jugé inacceptable le refus par les autorités algériennes de reprendre leurs ressortissants qui, je vous le rappelle, a tué une personne et blessé plusieurs agents municipaux avec une arme blanche. Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, il avait été présenté 10 fois aux autorités d'Alger. 10 fois, il a été refusé, s'est agacé François Bayrou en marge du Salon de l'Agriculture. Le ministre de la Justice espère un retour en France dans les 10 jours pour Mohamed Amra. Le narcotrafiquant multirécidiviste était le fugitif le plus recherché de France. À l'aide d'un commando, il s'était échappé en mai dernier lors d'un transfert. 2 agents pénitentiaires avaient été tués. Mohamed Amra a été interpellé samedi en Roumanie. 24 gardes à vue sont en cours, a précisé Gérald Darmanin, des personnes soupçonnées de l'avoir aidé dans sa cavale. Toujours en France, Joël Le Squarnec reconnaît avoir commis des actes odieux. Le procès de l'ancien chirurgien de 74 ans s'est ouvert ce lundi en France. Il est accusé de violences sexuelles sur près de 300 patients, pour la majorité des mineurs. La plus grande affaire de pédophilie jamais jugée. Des actes perpétrés entre 1989 et 2014 dans des hôpitaux de l'ouest du pays, alors que ses victimes étaient souvent endormies. Alors comment cet homme a pu sévir 25 ans sans être dénoncé? Les victimes attendent une réponse, des victimes en colère, car Joël Le Squarnec avait éveillé les soupçons à plusieurs reprises sans que les directions d'hôpitaux ne réagissent. Francesca Satta est l'avocate d'une dizaine de parties civiles.
Bien sûr qu'elles le sont en colère contre Joël Le Squarnec en premier, à l'encontre du système hospitalier qui a quand même laissé faire Joël Le Squarnec pendant 30 ans, en toute impunité.
Quels sont les couacs que vous identifiez, notamment à l'échelle de l'institution hospitalière?
Le premier des couacs, c'est quand on a un Joël Le Squarnec qui est condamné pour la détention d'images pédopornographiques et que vous n'avez pas, en suivant, une poursuite disciplinaire du personnage. Ça, c'est un premier couac. Parce que nous n'avons pas le suivi des instances médicales qui ont connaissance de cette décision pénale qui a été rendue et qui ne font rien. Ça pose des questions sur l'absence totale de réaction administrative, ça c'est sûr. Donc oui, il y a une colère. La colère est saine parce qu'elle permettra la parole et elle permettra effectivement que Joël Le Squarnec entende jour après jour le mal qu'il a pu répandre sur chacune d'entre elles.
Un propos recueilli par Baptiste Coulon. Le procès de Joël Le Squarnec doit durer jusqu'au mois de juin. Ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est presque 1h10 à Paris, 1h de moins en temps universel. L'info continue sur nos réseaux sociaux et sur notre site rfi.fr. Tout de suite, c'est Couleur Tropicale avec Claudicia. Merci à vous et bonne suite des programmes sur RFI.